J'ai le plaisir d'avoir en ma compagnie Madame Martine Lévesque. Bonjour Madame Lévesque.
Bonjour.
Vous êtes professeure à l'École de réadaptation de l'Université de Montréal et chercheuse au Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives en citoyenneté. Et vous êtes docteur en ergothérapie?
En fait, en santé publique.
En santé publique, d'accord.
Oui.
Et ce qui nous amène aujourd'hui, c'est la recherche que vous menez en ce moment sur les barrières structurelles qui retiennent les femmes handicapées victimes de violences conjugales dans un cycle de violence et vraiment rendent presque impossible parfois leur accès à la sécurité. On en a déjà parlé ici à l'antenne de Sans détour plusieurs fois et on le sait, les femmes en situation de handicap sont beaucoup plus sujettes à être victimes de violences.
Oui, tout à fait. Elles sont connues pour, à travers différents sondages là, au niveau canadien, enquête sur la sécurité dans les espaces publics, enquête sociale générale, pour être environ là, deux fois plus à risque là, de vivre de la violence. Elles rapportent en moyenne deux fois plus de violences toutes formes confondues là, que les femmes sans incapacité. Là. Donc, c'est un phénomène connu
et
de plus en plus étudié là, dans les dernières années là, dans la littérature.
Et ce qui est terrible, c'est que de l'autre côté, la structure pour les aider ou les structures qui pourraient les aider à se sortir de ce cycle-là et trouver la sécurité sont pas à même de les aider pour des questions d'accessibilité, d'adaptation, et ainsi de suite. Alors, non seulement encore plus souvent victimes, mais encore relativement peu, aidées.
Oui, tout à fait. Les structures, les soutiens dont elles auraient besoin, les appuis à différentes étapes là, de leur trajectoire de sortie sont lacunaires, insuffisantes à différents degrés et pour diverses raisons. Et ça touche une multitude là, de secteurs dans la société et d'organismes et d'identités. Je ne sais pas si vous avez des questions précises.
Je vous laisse aller parce qu'on peut prendre tout le parcours à partir du moment qu'on essaie d'appeler à l'aide. D'avoir un transport, d'être aidé puis d'être recueilli. À chacune de ces étapes-là, il y a des difficultés.
Oui, il y a des embûches à tous les niveaux et elles vont varier en fonction du profil d'incapacité de la femme. Et on est en train là, on est à une ère où on doit produire là, plus de connaissances sur les besoins spécifiques là, de différents profils, comme je vous dis, que ce soit une incapacité liée à une déficience sensorielle, donc de la vue ou de l'audition, les femmes sourdes, les femmes aveugles, ou de l'incapacité motrice, la mobilité réduite, ou encore langagière, vous parlez de communication.
Oui.
Les besoins et les embûches vont se manifester de façon différente et il y a un besoin là, de sensibilisation là, à tous les niveaux pour tous ces sous-groupes de femmes, si vous voulez. Là, ce qu'on sait avec les statistiques, ce sont des données où on a tendance à confondre là, les différents profils de femmes.
Oui, c'est un point de vue validiste de dire que tous les handicaps, c'est le même, là, oui.
Oui. Donc, mais c'est sûr que dans la recherche que nous avons menée en intersectorialité là avec la Ville de Montréal, le CIUS Centre-Sud, des partenaires du monde du handicap, dont le regroupement des activistes pour l'inclusion et d'autres des maisons d'hébergement, on a pu étudier la trajectoire pour essayer d'identifier des façons des embûches, mais aussi certaines stratégies ou solutions qui abordent certains défis particuliers. C'est évident que, comme je vous explique, il y a un univers de connaissances à produire et de solutions à identifier pour un ensemble de femmes, mais je peux vous donner l'exemple de la femme sourde. On travaille en partenariat avec la Maison de la femme sourde et avec l'expérience qu'elles ont dans l'accompagnement des femmes, on a pu bien comprendre là, la difficulté, l'embûche du point de vue de pouvoir relater son histoire correctement à l'enquêteur, le policier qui se présente chez la femme en raison d'une incompréhension, d'un manque de sensibilisation là au besoin d'avoir accès là à une interprète formée en langage des signes, en langue des signes québécoise et parce que les pratiques habituelles vont négliger là de tenir en compte de ces différences là, de ces besoins spécifiques. Et dans le cas de la police, c'est de tendre à vouloir utiliser papier-crayon ou d'avoir gesticulé ou d'utiliser un voisin ou un membre de la famille qui est capable de se débrouiller un petit peu avec le langage des signes. Mais ça entraîne toute une panoplie de conséquences au niveau juridique si ça procède à une cause en cours. La femme est très désavantagée à ce moment-là.
Oui, tout à fait.
Donc, ça, c'est un exemple, un profil, un défi, la communication. Et puis, on pourrait passer des heures à passer en revue l'ensemble de la problématique parce qu'on a aussi, évidemment, je le mentionnais, les femmes à mobilité réduite qui ont des besoins en architecture adaptée universellement.
Que le transport adapté soit immédiatement disponible parce que quand il faut sortir d'une situation dangereuse, c'est pas dans 48 heures, là, c'est maintenant.
Non, c'est ça. On ne peut pas passer par un système de réservé d'avance.
Non,
son transport adapté, ça ne fonctionne pas dans le contexte de la violence conjugale. À ce niveau-là, nous, à la Ville, avec le service de la police de la Ville de Montréal et le transport adapté, il s'est développé une entente de service où on va rapidement pouvoir accéder à un transport adapté d'urgence.
D'accord.
Mais c'est une politique qui a été qui est applicable à d'autres contextes, dans le contexte d'incendie, dans des maisons d'hébergement ou des centres d'hébergement, mais qu'on a que les institutions puissent s'entendre entre elles, entre la police, le transport, s'assurer que ça s'applique aussi dans le cas de la femme en situation de violence conjugale et nécessitant un transport avec un fauteuil roulant, par exemple. Mais c'est le cas de notre projet ici à Montréal, mais en région, c'est loin d'être résolu.
Oui, tout à fait. Dans une région moins densément peuplée, là, cet enjeu-là est plus difficile. Ça, c'est en collaboration avec la Ville, le service de police de la Ville de Montréal, ainsi de suite. Mm-hmm. Donc, on peut voir une volonté institutionnelle qui a certains moyens. Rendu au centre d'hébergement pour femmes de victimes de violences, là, malheureusement, souvent, ces centres-là ont des moyens pas aussi développés. Et l'accueil, bien que plein de bonne volonté, peut y avoir des lacunes là aussi.
Oui, définitivement. Il y a des. J'aimerais quand même dire que c'est en mouvement. Il y a énormément de bonne volonté, comme vous le dites, d'efforts qui sont faits. Il y a beaucoup de maisons qui sont en train là, d'investir pour amener des changements là, du point de vue de leur niveau d'accessibilité, de leur mise en accessibilité. Mais jusqu'à l'an dernier, parce que je travaille en collaboration avec le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales, et elles ont en fait mis sur pied un beau programme, un projet d'accessibilité justement pour renforcer le système de soutien en maison d'hébergement, les services et l'hébergement. Mais il reste tout de même que plus de la moitié des maisons ayant été sondées ont rapporté qu'elles ont dû refuser des demandes de la part de femmes ou de femmes avec enfants en situation d'handicap.
Okay.
Donc, une problématique parallèle là, qui, en raison de problématiques liées à l'accessibilité universelle. Donc, il reste que c'est il y a énormément d'améliorations à faire.
Il y a beaucoup de chemin à faire. Ce qui est heureux, c'est que au moins on s'est engagé dans ce chemin-là, même s'il risque encore d'être long.
Oui, il y a vraiment une... Je crois observer une augmentation là, de la prise de conscience, de l'importance là, de pouvoir répondre aux besoins de toutes les femmes et donc d'efforts qui sont mis. Toutefois, c'est long, c'est lent,
oui. Et c'est malheureux. Ben, Madame Lévesque, je vous remercie beaucoup. C'est tout le temps dont nous disposons. On va continuer à aller dans ce sens-là parce que il y a une grande injustice qui doit être, résolue.
Oui, voilà. Puis il faut y aller jusqu'au niveau là, des gouvernements puis des décideurs pour mettre en place là, les bonnes ressources. La complexité du processus pour les maisons, là, c'est pas juste au niveau des maisons d'hébergement,
exact.
Il faut dire, puis une imputabilité éventuellement au niveau légal là, de aussi. Prendre possible les moyens pour
Parfait.
Les femmes.
Ben, je vous remercie.
Merci à vous, au revoir.
Merci.